Et maintenant, dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 16 à 28. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. » Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit : au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua : nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit : l'une dit : c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit : nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta : apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit : coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi : ah, mon Seigneur, « donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit : « il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit : « donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est la mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui, pour le diriger dans ses jugements. Seigneur, ta parole est source de vérité et de sagesse. Conduis-nous dans ta vérité, accompagne-nous dans ta sagesse. Alors ce matin, nous allons ensemble essayer de regarder de plus près cette célèbre petite histoire qu'on pourrait résumer avec le titre « Le roi, les femmes et la sagesse », quelque chose comme ça. Et je vais vous en proposer une lecture narrative, anthropologique. Je vous propose de cheminer tranquillement avec moi dans notre méditation et tout au long des remarques qui sont proposées, des idées qui seront partagées, et bien que chacun puisse cueillir les fleurs qui lui conviennent, qu'il compose lui-même le bouquet avec lequel il aimerait repartir ce matin ou qu'il aimerait peut-être même offrir en sortant d'ici. Je ferai donc simplement une succession de remarques sur ce passage et je vous invite à y trouver ce qui vous convient. La première de ces remarques, c'est que cette histoire des deux prostituées revendiquant le même enfant vivant a toutes les allures d'un conte, un conte populaire. Et le seul fait que les acteurs, y compris le roi, soit anonyme dans l'histoire, c'est plutôt un signe que nous avons à faire là à un conte. Et dès le début du XXe siècle, un anthropologue écossais qui s'appelle Fraser a comparé cette histoire avec un parallèle indien. Et après lui, beaucoup ont fait ça et ont trouvé dans le folklore universel des tas d'histoires dans beaucoup de cultures qui ressemblaient à la nôtre. Il y en a d'autres aussi qui l'ont comparé, qui le rapprochent à un conte chinois, où pour trancher une affaire similaire, le juge éloigne l'enfant des deux mères, et au signal donné, les deux mères doivent se précipiter, attraper l'enfant. Et la mauvaise mère attrape l'enfant, la vraie mère essaye de tirer l'enfant, elle commence à se battre avec l'enfant au milieu, et quand l'enfant se met à pleurer, finalement la vraie mère arrête, parce qu'elle a peur de blesser l'enfant, et donc le juge la reconnaît. Nous sommes donc en présence d'un conte de sagesse universelle, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il a certainement quelque chose aussi pour nous qui sommes à Londres. En tout cas, il a de quoi éveiller notre curiosité. D'ailleurs, il y a encore des choses qui pourraient nous étonner, comme par exemple la rapidité du jugement. Je ne sais pas si vous l'avez noté quand même, mais le conflit entre les deux femmes a lieu le matin, et le jour même, le jugement est rendu. Ça fait rêver, non? Vous avez l'air de trouver ça normal, mais ça fait rêver. Si la justice pouvait se rendre aussi vite dans nos administrations, surtout peut-être justement pour ces histoires un peu familiales et difficiles, quand il s'agit de déterminer qui doit avoir la garde des enfants, etc., quand ça se passe aussi vite, c'est peut-être assez formidable. Bref, cette rapidité est importante pour nous dire peut-être que la sagesse de Dieu s'exprime dans notre quotidien. Et si jugement de Dieu il devait y avoir, c'est ici et maintenant qu'il s'applique, pas à la fin des temps, pas à un quelque retour de Jésus, ou enfin que sais-je encore, à son retour. C'est en tout cas la théologie qui était en vogue à l'époque où l'auteur a écrit ces lignes. On en était à un stade de la théologie où on savait que Dieu était juste et il fallait que cette justice se rende ici et maintenant. On n'avait aucune notion d'une quelque justice qui se rendrait quelque part à la fin des temps. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les cantiques d'imprécation qu'on peut trouver, vous savez, les psaumes d'imprécation qu'on trouve dans nos Bibles, qui sont assez terribles quelquefois, « Casse les dents de mes adversaires, heureux celui qui brisera les enfants, tes enfants sur le roc », etc. Ça nous fait bondir parce qu'on voit ça avec nos lunettes chrétiennes, mais à cette époque-là, il n'y avait aucune notion d'un quelque jugement qui devait se rendre après. Dieu était juste, cette justice devait se rendre ici et maintenant. Pas de jugement final à la fin des temps. Une autre bizarrerie de cette histoire, encore, c'est quand même la magnifique dignité qui est accordée à ces deux prostituées. Alors bien sûr, pour elles, le sujet est très important, il est grave, il s'agit quand même d'une relation avec un enfant, mais du point de vue du roi, n'a-t-il pas d'autres urgences que de régler ces crépages de chignon entre deux filles mères, reflet lamentable en plus de la fange de son royaume? Un roi a quand même autre chose à faire. C'est une évidence. Et pourtant, cette situation, mineure et dérisoire aux yeux de l'État, trouve sa place dans la salle du royaume le jour même et retient toute l'attention du roi. Si le roi Salomon s'est rendu disponible et intéressé immédiatement pour le souci de deux prostituées, à combien plus forte raison Dieu lui-même se préoccupe de nous à l'instant où nous lui adressons la parole? En fait, quelque chose se met en route dès lors que nous commençons notre prière. C'est une évidence. Ici, c'est une prière pour la justice. Une mère, une maman qui se voit voler son bébé. Alors regardons justement de plus près maintenant le contenu du problème qui doit être tranché et voyons comment s'exerce cette justice de Dieu. La source du problème, en l'occurrence, c'est l'instinct maternel. Alors une mère qui met au monde un enfant développe cet instinct. Il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de la protection un peu démesurée. Je me souviens, la sœur de ma femme, elle ne voulait absolument pas que personne ne touche son bébé quand il est né, même pas sa mère, personne ne devait le toucher. Elle était quasi comme une louve agressive dès lors que... Et elle est incapable d'expliquer pourquoi elle avait cette attitude-là. Ça ne se maîtrise pas, ça ne se contrôle pas. C'est juste un réflexe, peut-être, à ce moment-là, qui diminue et qui passe dans le temps, bien sûr, mais voilà, qui peut être... qui est bien là, en tout cas, au moment où l'enfant est très petit. Or, si cet instinct possessif est nécessaire, voire vital même, pour un temps, il peut être aussi toxique s'il se prolonge dans le temps. Une mère peut étouffer son enfant en le serrant trop fort, trop près d'elle, en le serrant trop près de ses idées, trop près de ses valeurs, trop près de ses rêves. Elle peut malencontreusement étouffer l'enfant. Elle l'empêchera de respirer, elle l'empêchera de s'épanouir, elle l'empêchera de devenir, elle l'empêchera d'être, elle l'empêchera de s'épanouir. Et on peut penser d'ailleurs à toutes ces belles-mères qui entravent si souvent l'épanouissement des nouveaux foyers, ou les mères tout simplement qui entravent si souvent d'une manière ou d'une autre le mariage de leur fils. Il y en a plein. Bref, l'instinct maternel, même d'une prostituée qui n'a certainement pas désiré son enfant, cet instinct est puissant. En voulant garder l'enfant contre elle, serrant l'enfant contre son sein, elle l'a étouffé, il est mort, et symboliquement, combien sont morts à leur véritable devenir à cause d'une mère un peu étouffante. Et bien sûr, on aurait pu s'en douter, en essayant d'échanger son fils avec celui de sa colocatrice, elle suscite la furie de l'instinct maternel de l'autre, et elle se voit traînée directement au tribunal. Et vous l'avez remarqué, dans ce couple étonnant, il y a un manque quand même, quelque part, il manque un homme, il manque un père, hein, dans le récit qui est fait en tout cas par la femme, elle insiste bien, nous ne sommes que toutes les deux à la maison, il n'y a personne d'autre, etc., voilà. Et ce manque cache sans doute un des enjeux cachés, qui pose d'ailleurs question, comment cet enfant va-t-il trouver à vivre s'il n'y a pas de père? Vous savez, celui que l'on charge de trancher le cordon ombilical. Eh bien, Salomon va jouer ce rôle-là, et Dieu veut jouer ce rôle-là, ce rôle de père. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est vu et interprété comme un père. Et du coup, on peut peut-être comprendre ça, que ce qu'on appelle le jugement de Dieu, c'est de trancher les liens qui retiennent, c'est de trancher les liens qui étouffent, les liens qui nous retiennent, qui nous empêchent d'être et d'exister. C'est de libérer la vie, libérer ce que nous sommes de plus précieux. En tout cas, c'est une manière de comprendre le jugement de Dieu, c'est pas un jugement qui nous écrase et qui est là pour nous assommer ou nous punir, c'est un jugement qui est là pour nous délivrer et pour nous faire avancer. En fait, ces deux femmes, par leur attitude, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sont en train de détruire complètement la vie de l'enfant. Salomon leur montre ça en leur mettant comme un miroir devant les yeux. Il le met bien en face d'elles, hein, coupez l'enfant. Et voilà à quoi conduit votre conflit. À la destruction de votre bien le plus précieux. Alors au passage, on peut peut-être se demander, est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de risquer la mort, même toute symbolique, de notre bien le plus précieux parce que nous voulons tellement le posséder, nous voulons tellement le retenir. Nous arrive-t-il de détruire notre vie parce que nous voulons absolument en être le maître absolu, le possesseur absolu? Est-ce que nous ne déchirons pas paradoxalement la vie de notre prochain, de notre conjoint, de nos enfants, en voulant absolument être les uniques protecteurs et conseillers de ceux qui nous sont proches? Voilà peut-être des questions que nous pose ce texte. Alors en proposant de suivre la justice humaine, à chacun sa part, hein, on partage équitablement et on sépare les deux, en proposant de suivre cette justice, on va dire démocratique, Salomon, et peut-être Dieu à travers lui, paradoxalement sauve l'enfant. Et comment est-ce qu'il le sauve? Eh bien, en remplaçant l'instinct maternel par l'amour maternel. Hein, Salomon va pousser l'instinct maternel jusqu'à l'absurde, il va pousser la volonté de posséder jusqu'à l'absurde pour permettre l'éclosion de l'amour maternel. Alors l'amour se ferait un passage dans le cœur de la vraie mère. Et nous, qu'entendons-nous? L'amour n'est pas le désir de posséder. L'amour, c'est le désir de voir vivre, de voir s'épanouir, de voir grandir, de voir vivre libre. Mais si par Salomon Dieu joue le rôle du père, il révèle aussi comment se manifeste son rôle de mère. Quand Dieu dit « Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche, et cajole sur ses genoux, dans notre chapitre 66 d'Ésaïe, il ne veut pas signifier qu'il veut nous posséder au risque de nous étouffer. Non, son amour veut nous voir vivre, debout, dégagés de toute contrainte, même et surtout de tout chantage affectif, du genre « si tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien je ne t'aimerai plus ». L'amour de Dieu n'est pas conditionné par nos actes. L'amour de Dieu n'est pas à la hauteur de notre perfection, mais il est à la hauteur de son pardon, à la hauteur de sa grâce. Ça, c'est une théologie plutôt très protestante. Enfin, une chose encore qu'on peut apprendre de ce passage, c'est que Dieu est toujours du côté de la vie. Puisque le dernier verset nous révèle que cette sagesse qui se manifeste chez Salomon est reconnue par les hommes comme étant celle de Dieu, mais peut-être qu'en fait, comme nous, je me suis demandé, après tout, il n'y a rien d'exceptionnel, Salomon, il est comme vous et moi, et peut-être que comme vous et moi, il progresse, il avance, la sagesse ne lui est pas tombée comme ça d'un coup du jour au lendemain sur les épaules ou dans la tête, mais voilà, il tâtonne aussi avec la sagesse. Il faut la découvrir, il faut la travailler, il faut la faire grandir cette sagesse, et c'est un travail de toute une vie, même pour Salomon, c'est peut-être et c'est sûrement un processus. Et nous assistons peut-être là justement à une des étapes de ce processus. Imaginez peut-être cette version. En fait, frustré que son temps soit pris par ce cas complètement insoluble, il finit par décider, voilà, ces femmes se battent pour avoir chacun l'enfant, j'en ai assez, qu'on le coupe en deux, qu'on donne la moitié à chacune et voilà, et qu'on passe à autre chose. Et là, en entendant la vraie mère pousser ses cris de l'intérieur, c'est là qu'il comprend, c'est là qu'il saisit que ça ne peut être qu'elle et l'autre qui insiste pour qu'on coupe l'enfant. Donc c'est là que sa sagesse se manifeste, c'est là qu'elle se trouve, pas forcément dans la décision de couper l'enfant, mais dans ce qu'il en fait de ça. Et notre sagesse fonctionne aussi de la même manière. Elle a besoin de grandir et elle est toujours en route. Alors en ce temps de l'Avent, nous aussi, nous sommes bien sûr appelés à la sagesse. Et cette sagesse-là, cette sagesse de Dieu, si nous la poursuivons, si nous la cherchons toute notre vie durant, eh bien nous la trouverons toute notre vie durant. C'est-à-dire, ce n'est pas à la fin de sa vie qu'on devient sage parce qu'on aura cherché la sagesse toute sa vie, mais c'est qu'elle vient petit à petit, jour après jour, elle se pose. Et nous sommes en chemin, et le long de ce chemin, eh bien, nous sommes appelés non seulement à grandir dans la sagesse de Dieu, mais aussi à la partager avec celles et ceux qui croisent notre route. C'est un peu le but du jeu. Alors, en ce temps de l'Avent qui commence ce dimanche, en ce temps d'attente et de désir, plutôt que d'attendre la naissance d'un petit Jésus dans la crèche, nous pourrions désirer, aspirer, attendre cette sagesse de Dieu qui était en Salomon pour le diriger dans ses jugements, nous dit le texte, cette sagesse qui nous aidera à discerner le vrai et du faux, à vivre des vies toujours plus heureuses et épanouies, qui nous aidera surtout dans notre mission à rendre ce monde meilleur. C'est en tout cas ce à quoi nous invite ce texte ce matin. Amen. Thank you.